En préparant votre confession, vous vous rendez bien compte que la vie chrétienne est difficile parce qu'il est si facile de tomber, si facile de se laisser abattre et de se laisser piéger par nos faiblesses, par le démon. Cela nous convainc donc que la vie chrétienne, c'est effectivement un vrai combat. Et je voudrais vous entretenir ce soir du combat spirituel, de sa réalité dans la vie chrétienne et de notre attitude face à cette nécessité de combattre. Alors ça peut surprendre de se dire qu'on est des combattants. Et pourtant, si on voulait faire abstraction du combat, si on voulait se passer de lutter dans notre vie, eh bien on se condamnerait certainement à l'illusion. Et l'illusion, tôt ou tard, elle tombe, et donc on n'en ressort pas sans douleur, ni sans désenchantement, sans déception, parce qu'on a cru que la vie pouvait être tranquille. Et on cherche instinctivement cette tranquillité dans notre vie, cette paix. Ce n'est pas anormal de le rechercher. C'est une situation normale que d'être en paix. Mais malheureusement, il y a une nécessité de lutter, et constamment, jusqu'à notre mort donc. Et donc, alors d'où vient cette nécessité d'une lutte, et d'une lutte permanente? On pourrait diviser en deux. La première raison, qu'on pourrait appeler négative, c'est le fait de notre condition d'homme pécheur. Parce que nous avons eu le péché originel, parce que nous en avons les conséquences, eh bien, il y a toujours, malgré le baptême, malgré les sacrements de la vie chrétienne, il y a toujours la nécessité de conquérir toujours plus au profit de notre Seigneur dans notre âme. Parce qu'il y a ces fameux foyers, j'en parlerai tout à l'heure, de concupiscence, qui sont ces restes, ces marques du péché originel, qui lui a disparu en tant que faute et en tant que révolte contre Dieu, mais qui a laissé ses traces. Et ces traces sont des fragilités permanentes pour nous, qu'il va falloir toujours combattre, enfin dont il va falloir, comme un foyer d'incendie qu'on a circonscrit, mais il faut vérifier constamment qu'il ne reprend pas. Ça, c'est la raison, on pourrait dire, négative. Raison positive, il ne faudrait pas l'oublier, on parle souvent de la première, mais rarement de la deuxième, c'est que il y a, pour nous, la nécessité de conquérir le ciel. Comment ? Bien sûr, avec la grâce de Dieu, puisque c'est une conquête surnaturelle, donc le moyen doit être surnaturel. Il n'y a de moyen surnaturel qu'avec la grâce. Mais c'est aussi parce que Dieu nous a fait de telle sorte que nous avons à déployer toutes nos puissances, nos dispositions qui ne demandent qu'à agir. L'être humain est un être en puissance à bien des choses, et bien des choses bonnes. Il a des puissances qui ne demandent qu'à être, comme on dit techniquement, actuées, c'est-à-dire de passer à l'acte. Et ce passage à l'acte n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Lorsque vous avez un don artistique, une capacité à faire quelque chose de manuel ou d'intellectuel, vous avez beau avoir ce don ou ce travail, c'est justement le travail qui va montrer qu'il y a une élaboration, il y a une conquête pour réaliser bien ce que vous faites. Alors bien sûr, vous avez une disposition à la base, mais cette disposition, si vous ne la faites pas travailler, avec tout ce que ça comporte d'éventuellement difficultés, il n'y aura pas de résultat. Donc on voit bien que toute notre vie d'être humain, c'est une vie qui, d'un point de vue positif, celui-ci, est un appel à déployer des puissances qui ont été données par Dieu pour être déployées. Il faut passer à l'acte. Alors il faut passer à l'acte dans notre intelligence pour connaître le vrai et puis dans toute notre volonté pour pratiquer le bien. Je ne redéveloppe pas cet aspect. Mais dans ce déploiement d'une puissance qui va passer à l'acte, il y a nécessairement une lutte, une difficulté. Le passage ne se fait pas tout seul et en toute tranquillité. Donc on a bien un aspect positif qui fait que le combat, finalement, est quelque chose qui ne vient pas que du péché originel, attention. Et on ne gagne pas le bonheur éternel sans rien faire. Même Adam et Ève, imaginons qu'ils n'aient pas péché, n'auraient pas gagné le ciel sans rien faire. C'est jamais ça qui leur a été promis. Donc vous voyez bien qu'il y a, sans le péché, il y aurait eu nécessairement une conquête, et même le travail, puisque Dieu confie le paradis terrestre à Adam et Ève, et il les charge de le cultiver. Et c'est avant le péché originel. N'oubliez pas, c'est souvent une confusion qui est faite dans l'ordre des choses. Ce qui va devenir un châtiment, c'est que le travail deviendra pénible et obligatoire pour pouvoir survivre. C'est pas la même chose. Mais le travail en lui-même est déjà demandé à Adam et Ève, Adam en tout cas, au moins, avant même le péché originel. Donc voilà ces deux aspects. Donc d'un côté, une conséquence du péché originel, qui évidemment rend notre intelligence plus obscure, notre volonté plus difficilement orientée vers le bien. Donc ça, on comprend bien que ce soit un combat permanent pour rétablir cet effort. Et puis d'autre part, un combat qui vient tout simplement de notre condition de créature libre, mais qui va déployer grâce à Dieu des puissances qui vont être donc actuées, je disais. Alors, l'intelligence, elle est faite pour goûter la vérité, pour goûter ce qui est. Eh bien, c'est sûr qu'il y a des vérités qui sont difficiles à saisir. Et là encore, sans même les conséquences du péché, toute vérité n'est pas accessible facilement à l'intelligence humaine. Alors, le péché originel va obscurcir l'intelligence, ce qui fait que ce sera beaucoup plus dur. Il faudra réfléchir, il faudra se creuser la tête, comme on dit, pour atteindre des vérités et qui nous échappent parfois quand même. Donc, c'est sûr, le péché originel, dans ses conséquences, aggrave la nécessité de combattre, de lutter pour atteindre le vrai. Même chose pour le bien. Alors ce combat, qui est donc inévitable, est double. Il a une double origine, on vient de le voir, mais lui-même est double. On peut dire que ce combat spirituel est à la fois interne et externe. Interne parce que là, c'est ce que nous vivons le plus douloureusement, j'allais dire, parce que la raison, elle doit toujours reprendre le dessus sur les facultés qui lui sont inférieures. On en parlait déjà un petit peu hier. La raison, qui est notre faculté maîtresse, qui est notre lumière dans notre intelligence, qui va connaître ce qu'il faut faire, qui va guider la direction à donner, qui va, ayant vu la direction vers laquelle elle doit se diriger, qui va tout mettre en place pour s'y diriger, eh bien cette raison se trouve parfois court-circuitée, contrecarrée, par tout un tas de forces qui sont en nous, donc c'est bien interne, qui nous appartiennent, mais qui ne se mettent pas à leur place, c'est-à-dire soumises à cette raison, mais qui se révoltent contre elle, et qui viennent dicter leur loi à la raison. Donc les passions, par exemple, et toutes les facultés de notre sensibilité, de nos sensations, recherche du plaisir, colère, tout ce qui est révolte de la sensibilité qui vient s'imposer face à la raison qui pourtant voit ce qu'il faut faire, mais qui se trouve comme impuissante alors que c'est elle qui dirige normalement. Ça vient bien sûr du péché originel, c'en est la conséquence directe, puisque l'intelligence d'Adam et Ève a refusé de se soumettre à Dieu, dans un point, l'obéissance au commandement qui avait été précisé, et du coup, le châtiment, ça va être que en l'homme, l'intelligence ne sera plus maîtresse. Elle n'a pas voulu se soumettre à Dieu qui lui était supérieur, du coup, elle, intelligence de l'homme, sera, on lui désobéira, mais à l'intérieur d'elle-même, enfin à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire les puissances inférieures désobéiront à l'intelligence, à la raison, comme d'une certaine façon pour rappeler la révolte de l'intelligence à Dieu qui avait créé cette intelligence et donc à qui était due obéissance. Alors ce désordre, c'est la perte de ce qu'on a appelé la justice originelle. La justice originelle, c'était l'état dans lequel se trouvaient Adam et Ève, créés en état avec l'état de grâce en plus, et tout était parfaitement ordonné. Mais il y avait cette petite liberté qui était au niveau de la raison, de l'intelligence, de pouvoir éventuellement, ça vient du fait de la liberté bien sûr, hein, cette faillibilité, malheureusement, elle a fonctionné, puisque Adam et Ève se sont révoltés, c'est la seule chose ils avaient la défaillance possible à ce niveau-là, et elle a eu lieu, cette défaillance, parce qu'ils l'ont voulu. Ils ont donc désobéi, c'est un péché d'orgueil, le péché originel, et ça a fait perdre cette justice originelle, c'est-à-dire cette parfaite ordination de tout dans l'être humain, qui était un ordre parfait de toutes les puissances, les unes par rapport aux autres, selon leur dignité. Les facultés intellectuelles étant évidemment les plus nobles. Alors du coup, ça entraîne un combat de la chair contre l'esprit, comme dit saint Paul, des appétits sensibles contre la raison, je le disais. Et du coup, eh bien, l'homme va avoir beaucoup plus de mal pour atteindre sa fin, ce qui est évidemment quelque chose de grave. Puisque être heureux, c'était le but de l'homme. Donc s'il a plus de mal à être heureux, il risque d'être malheureux plus facilement, c'est une évidence. Et qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Être heureux, c'est agir conformément à la raison. C'est atteindre sa fin c'est Dieu bien sûr, mais c'est la raison qui nous indiquait ce chemin à suivre, la raison éclairée par la foi. Mais la raison quand même. Et donc, c'est en agissant conformément à cette raison éclairée par la foi, en agissant dans le bien, que l'on sait être heureux, pouvoir être heureux. Et pourtant, ce chemin est difficile. Alors, c'est bien un combat interne qui va s'opérer. Et il ne pourra pas s'opérer sans la grâce. On peut vaincre sans la grâce des petits maux, des petites contrariétés internes. On peut vaincre un certain nombre de désordres internes, mais pas les grands. C'est impossible. Les grands désordres internes en nous ne seront pas vaincus sans la grâce. C'est impossible. Et puis, il y a un combat externe. Alors, on le résume en deux aussi, c'est ce qu'on appelle le monde, mais on va expliquer le sens de ce terme, et puis le démon, le diable. Alors, le monde, qu'est-ce qu'on entend par le monde, ou l'esprit du monde, c'est la même chose. Le monde, c'est pas... Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est... Ce n'est pas le monde en tant qu'univers, terre sur laquelle nous vivons, ou ensemble des êtres qui y vivent. Ce n'est pas ça du tout, puisque nous en faisons partie, donc on ne peut pas être... Ce n'est pas ça, c'est l'esprit du monde qui prévaut, c'est-à-dire cet esprit qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? C'est l'esprit qui vit volontiers des trois foyers de concupiscence, c'est-à-dire ces trois fameux foyers qui n'ont pas pu être déracinés par le baptême, parce que ce n'est pas son objectif, c'est pas ce que Dieu a voulu faire avec le baptême. C'est-à-dire que ceux qui vivent en ce monde, en se laissant aller à leurs inclinations, ont l'esprit du monde. Voilà comment ils font comprendre le sens du monde. Ce n'est pas l'ensemble des hommes qui vivent sur cette terre qui sont nos ennemis. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'esprit qui passe en ceux qui veulent se laisser aller à cet esprit d'une nature blessée, d'une nature déchue. Et c'est contagieux, bien sûr. C'est d'autant plus contagieux qu'on a nous-mêmes en nous ces inclinations. Ce qui fait que si on les voit pratiquer avec générosité, si je puis dire, par nos proches, eh bien on va être évidemment tenté de faire comme eux. Donc c'est en ce sens-là que l'esprit du monde est un obstacle et un ennemi pour nous, et qu'il faut combattre cet esprit du monde. Mais il faut déjà le combattre en nous. C'est ça le plus important, parce qu'il est en nous. Mais si on s'y laisse aller, alors on se laisse porter par l'esprit du monde, et on va effectivement s'éloigner de notre fin. Et on va renoncer au combat, et là on est sûr de perdre. Les trois remèdes, enfin les trois concupiscences, je ne les ai pas nommées, donc je les nomme quand même. Nous avons la concupiscence des yeux. C'est-à-dire que par les yeux, nous voyons tout ce qui se passe et nous voyons tous les biens terrestres. Et on appelle concupiscence des yeux ce désir des biens créés, des biens terrestres. Et c'est à l'opposé de notre fin qui est de ne pas s'arrêter sur les choses terrestres, mais au contraire de désirer les choses célestes. Alors c'est tous ces attachements à la matière, au matérialisme, aux richesses, aux biens concrets qui nous servent et dont nous ne devons pas, on ne peut pas s'en passer, mais qui ne doivent pas nous arrêter sur le chemin de Dieu, qui sont des outils, qui sont dont on peut faire usage, mais pas plus. Un instrument n'est utilisé que pour une fin qui le dépasse, pour autre chose que lui-même. Si on s'arrête à l'instrument comme étant brusquement le but de notre vie, alors on rate le but qu'on avait envisagé en prenant cet instrument pour quelque chose d'autre. La deuxième concupiscence, c'est celle de la chair, c'est-à-dire cette facilité que notre corps a de prendre le dessus en exigeant plaisir, confort, satisfaction permanente, sensible. Ça, c'est évidemment un des foyers que nous avons en nous et qui peut, s'il n'est pas combattu, évidemment provoquer des ravages dans notre vie spirituelle ou tout simplement la supprimer. Parce que c'est bien le corps qui est le plus opposé, le plus éloigné de l'esprit. Et enfin, le troisième foyer, c'est ce qu'on appelle la concupiscence de l'esprit, de l'orgueil. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus des biens corporels, comme pour le corps, que ce ne sont plus des biens extérieurs, comme pour la concupiscence des yeux. Ce sont des biens invisibles, ce sont des biens plus spirituels, plus intellectuels. C'est-à-dire, ce sont les honneurs, ce sont c'est la gloire, c'est la célébrité, c'est le goût de la puissance, le pouvoir. Ça n'est pas matériel, tout cela. Mais c'est bien ancré en nous, c'est le désir d'indépendance. On en a parlé beaucoup. C'est l'orgueil, ce désir d'être soi-même son Dieu. Eh bien, les trois remèdes existent. Notre Seigneur nous les a rappelés. Vous avez l'évangile du premier dimanche du carême. C'est les trois tentations. Notre Seigneur a accepté d'être tenté sous ces trois formes pour nous donner le remède. Mais plutôt que d'évoquer cet évangile, que je vous invite à relire, au premier dimanche du carême donc, prenons ce que l'Église a fait, a tiré comme leçon de cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les trois vœux de religion. Alors ce n'est pas une invitation ou un conseil pressant à embrasser la vie religieuse, c'est tout simplement bien comprendre que ces trois vœux de religion, que sont le vœu de chasteté, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, sont les exacts trois remèdes à ces trois foyers de concupiscence. Ce qui fait que chacun de vous peut appliquer au degré de son état de vie personnel, eh bien, au moins en esprit, s'il ne s'agit pas de faire des vœux, mais en esprit, d'appliquer les trois leçons, les trois voies qui sont données par les vœux de religion. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté, bien sûr. Pensez à ces religieux, ces religieuses qui renoncent par vœu à toute possession propre, tout objet. Il y a plus rien ne leur appartient. Il y a des ordres même qui, les habits même du religieux ne lui appartiennent pas. Donc ils peuvent en changer à la buanderie, une fois qu'ils ont lavé, ils en prennent le premier qui vient. Bon. Chasteté, bien sûr, consécration de son corps à Dieu, en renonçant à toutes les joies qui pourraient être légitimes par le corps dans le mariage. Et puis, obéissance, renoncer cette fois à ce que nous avons de plus propre, notre liberté. Par l'obéissance, nous faisons vœu, par le vœu d'obéissance, les religieux, les religieuses font vœu de renoncer, mais ce n'est pas un renoncement en disant je m'arrête de réfléchir et j'obéirai bêtement à tout ce qu'on me dira. Ce n'est pas du tout ça le vœu d'obéissance. C'est j'accepterai toujours la volonté d'un supérieur et je veux librement m'y engager, obéir à cette volonté supérieure. Ce qui fait que le vœu est composé de tous les actes, enfin est appliqué, pardon, dans tous les actes d'obéissance de cette vie religieuse. Et chacun de ces actes est un acte libre, puisque la liberté, c'est la faculté de faire le bien. Et donc, je fais le bien, le religieux fait le bien en s'appliquant à obéir à un supérieur auquel il s'est confié, et par vœu, il gagne un mérite supplémentaire puisqu'il renonce à sa volonté propre. Et à chaque fois, ça se renouvelle, autant d'actes d'obéissance. Donc ne comprenons pas, il ne faut pas s'illusionner, il ne faut pas se tromper, faire de confusion. Le vœu de religion d'obéissance, on n'enlève pas son cerveau ou sa capacité d'être libre. Ce n'est pas du tout ça. Ou d'obéir définitivement, de réfléchir définitivement, c'est pas du tout ça. C'est au contraire un engagement de toute sa liberté pour qu'elle soit soumise constamment à une autre volonté que la propre, que la sienne. Et c'est ça qui est grandiose, c'est ça qui fait les saints. Parce qu'évidemment, c'est notre liberté qui est la cause de nos fautes, puisque c'est dans l'engagement de notre volonté que nous faisons des fautes. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de faute. L'animal ne pêche pas, parce qu'il n'y a pas de liberté dans l'animal. Pourtant, il peut faire du mal à d'autres ou à vous. Mais ce n'est pas des péchés. Le péché, c'est une contradiction face à une volonté de Dieu par un acte qui est volontaire de la part de celui qui le fait. D'accord ? Voilà donc pour les trois concupiscences et les trois remèdes. Alors, il reste le démon. Alors lui, on le connaît aussi, et sa haine contre Dieu, elle est connue, et elle se manifeste, bien sûr, directement contre ses créatures, et celles qui sont sur terre, bien sûr, celles qui sont en enfer aussi. Il sait que les âmes ont été rachetées par Jésus-Christ, mais que cette victoire, tout en étant définitive, il a perdu définitivement, il peut souiller les fruits de cette rédemption et tâcher au maximum d'empêcher l'acquisition des mérites qui ont été gagnés une fois pour toutes. Donc nous sommes l'enjeu d'un grand combat, et là aussi il y a combat. Ce n'est pas un combat égal, il n'y a pas le Dieu et puis le démon à égalité. N'oublions jamais que le démon n'est qu'une créature, alors que Dieu c'est créateur, ça n'a rien à voir. Et donc, ce combat est inégal. Et en plus, il est perdu pour le démon. Donc l'affaire est déjà connue d'avance. L'issue est connue d'avance. Mais en même temps, le démon va essayer de faire des émules dans sa révolte. Il va essayer de souiller ce qui a été déjà potentiellement sauvé. Quand je dis potentiellement, c'est que même si Dieu sait de toute éternité qui est sauvé, qui ne l'est pas, ce salut se fera avec la collaboration de l'âme. Et donc, cette collaboration, elle est toujours... le démon va essayer de la rendre vaine, de la court-circuiter, si vous voulez, pour empêcher l'âme d'acquérir le salut auquel elle a droit, puisque notre Seigneur lui a donné le droit de l'acquérir. Et donc, Dieu qui propose la rédemption à tous va demander une réponse à tous, à chacun. Et cette réponse, elle va être l'enjeu d'un vaste combat. C'est tout le combat de notre vie spirituelle. C'est justement, on va dire, alors est-ce que je suis notre Seigneur ou est-ce que je suis ma nature déchue ? Le démon, on n'a pas envie de le suivre. Personne n'aura envie de suivre le démon. C'est pas ça qui va couler de source. Mais notre nature déchue, ça, on est bien prêt à la suivre. Parce que c'est en nous, c'est nous. Alors, le démon va accentuer les blessures de notre nature déchue et il va faire en sorte que nous prenions, en ne prenant pas le parti de Dieu, on prenne son parti, c'est-à-dire qu'on se révolte contre Dieu comme lui s'est révolté. Alors, si nous doutions que ce combat spirituel est une réalité, confions-nous à la révélation. Et il est évident que c'est une notion qui est révélée. C'est un combat qui a été décrit par les apôtres, et saint Paul est celui, sans doute, des apôtres qui reprend le plus souvent cette expression. Je vais vous citer trois phrases de saint Paul. La première, c'est dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 12, que des phrases que vous connaissez déjà. Combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait cette belle profession de foi devant un grand nombre de témoins. Voilà une incitation forte de saint Paul. Dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7, on connaît encore plus cette phrase qui était reprise. Depuis, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de justice que me donnera en ce jour-là le Seigneur, le juste juge. Deuxième à Timothée, chapitre 4, verset 7. Et puis enfin, quand je dis enfin, je n'en prends que trois. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Dans les courses du stade, tous courent, mais un seul emporte le prix. Courez de même afin de le remporter. Quiconque veut lutter s'abstient de tout, eux pour une couronne périssable, nous pour une impérissable. Et que fait le sportif pour gagner les courses, sans se doper ? Je traite durement mon corps et je le tiens en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc il y a bien une lutte, il y a bien un combat de tous les instants pour une couronne impérissable. Et la victoire de ce combat, saint Jean dit, c'est notre foi en Jésus-Christ. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Alors c'est beau de voir que ce combat, nous n'allons pas le mener seul, bien entendu. On l'a dit tout à l'heure, il faut la grâce. Mais pas la grâce comme ça, une espèce de substance ou de... simple accident, comme le rappelait Mgr Lefebvre tout à l'heure, qui vient enrichir notre être. C'est la grâce de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ en nous qui fera, qui nous mènera à la victoire. Oui, il y a un combat, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des échecs dans ce combat, il y a des batailles perdues. Mais il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et en même temps, sous-entendu, bien sûr, qu'avec moi, vous pouvez tout faire. Cette victoire, elle vous est promise dès lors que vous agissez avec moi. D'où l'importance, bien sûr, de cette union dans l'état de grâce. On vous a parlé de la grâce tout à l'heure. Eh bien, la retraite spirituelle que vous faites en ce moment, c'est justement un temps favorable, idéal, pour mieux découvrir la réalité de ce combat spirituel. Non seulement la réalité du combat, mais les moyens dont nous disposons, chacun, pour le mener à bien, et pour donc atteindre la récompense. Parce que le combat n'est pas une fin en soi. Si je vous parle du combat spirituel ce soir, ce n'est pas pour former des combattantes. C'est, même fût-elle spirituelle, c'est parce que il est impossible de faire autrement pour atteindre notre fin. Ce n'est qu'un moyen. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure au début, sans... Si jamais on croit pouvoir se passer du combat, on est sûr d'échouer. En tout cas, on goûtera malheureusement l'échec. Et on se rendra compte trop tard qu'il aurait fallu combattre. Alors, quelle doit être notre attitude dans ce combat spirituel? Eh bien, je voudrais me servir tout simplement de la petite lecture que vous avez au tout début de Compli, que nous aurons dans quelques minutes. C'est tiré de la première épître de Saint Pierre, c'est tout au début. Le chantre demande « Iubé Domine Benedicere », le prêtre répond à la bénédiction qui a été demandée, il bénit, et le chantre prend l'extrait de l'épître de Saint Pierre, qui est ceci, qui est celle-ci. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont endurées par vos frères dispersés dans le monde. » J'ai rajouté une petite suite qui n'est pas dans le... Alors, qui est de Saint-Pierre, bien sûr, mais qui n'est pas prise par la liturgie. Reprenons bien ces termes et ça nous donnera tout simplement l'attitude que nous devons avoir dans ce combat. Saint Paul le disait aussi, notre Seigneur avant lui, bien sûr, nous avait donné l'exemple, il faut veiller et prier. Notre Seigneur dit cela tout spécialement au Jardin des Oliviers, ne l'oubliez pas. Dans le moment où la croix paraît la plus insupportable en tant qu'elle va arriver, elle laisse l'âme de notre Seigneur dans une grande tristesse, un grand dégoût, dont on a peine à imaginer, et... Qu'il nous donne ce conseil, il donne ce conseil aux apôtres qui l'ont accompagné, veillez et priez. Parce qu'on le sait bien, si on ne veille pas, si on n'est pas vigilant, alors veiller ça s'entend au sens de ne pas dormir, mais ça s'entend aussi d'être vigilant, vigilate, soyez vigilant. C'est-à-dire ne vous laissez pas surprendre. On dit de façon familière, un homme averti en vaut deux. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Puisque l'on sait, on ne devrait pas se faire piéger. Celui qui attend le brigand qui vient percer sa maison, c'est dans l'Évangile, ça y est, il ne va pas se faire avoir. Le brigand, ici, c'est le démon. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Alors, deuxième attitude, après la veille, après la vigilance, c'est être ferme dans la foi. Et pour être ferme dans la foi, il faut nourrir notre foi en la puisant, cette nourriture, dans la grâce, dans les sacrements, bien sûr, et en contemplant cette fameuse récompense, même si on a du mal à savoir ce que ce sera, que ce ciel, cette vision béatifique, ce bonheur éternel, c'est quand même, on sait que c'est immense, on sait qu'il y a des saints qui se sont rendus compte au moment de leur mort, on suppose, qu'ils auraient leur seul regret, ce serait de ne pas s'être donné plus généreusement à Dieu. Cette foi, il faut la nourrir. Et on la nourrit dans notre vie d'union à Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes tentés par le découragement, par l'usure, eh bien, il faut se tourner vers cette récompense. Quand on fait un exploit sportif ou une grande marche, quelque chose de pénible physiquement qu'on a accepté, qu'on fait par soi-même, pèlerinage ou choses comme ça, eh bien, on se rend compte qu'il faut penser à l'arrivée pour se donner le moral. Sinon, on se décourage. Si on oublie le but, on se décourage dans l'adversité. Si on a un regard simplement humain sur notre vie, alors le moindre échec nous fait renoncer à tout combat, parce qu'on se dit, j'y arriverai pas. Et donc on renonce au combat, donc on renonce à la victoire. Et le dernier point de ce passage que j'ai rajouté, qui est de Saint-Pierre, les mêmes souffrances sont endurées par vos frères. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans l'Église, nous sommes fils de l'Église. Et cette vérité doit nous réconforter. Le dogme de la communion des saints doit être présent à notre esprit. Nous le disons dans le credo, ça n'est pas une petite vérité. Et cette communion des saints, c'est que la force des uns est la force pour les autres. Les mérites des uns sont disponibles pour les autres. Et chacun contribue à l'enrichissement des mérites de l'Église, unis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est bien sûr la source de ses mérites. Alors ça doit nous aider, y compris dans les difficultés, y compris si on est seul physiquement, parce que cette solitude physique tend à nous faire oublier une vraie communauté surnaturelle, spirituelle, et qui est bien plus forte qu'une simple union physique, une juxtaposition physique. Alors, pour terminer, je voudrais rajouter très rapidement, j'ai très peu de temps malheureusement, mais je vous donne des indications avec des références, comme ça vous pourrez le faire vous-même, ce travail, c'est de quelques notions sur le discernement des esprits, justement, dans les moments de difficulté, dans ce combat. Alors, celles qui ont fait des exercices Saint-Ignace connaissent bien cela. Et je vous y renvoie, si vous avez le livre bleu, je vous donne les pages carrément, et je parlerai de 3 minutes de l'une ou l'autre. C'est dans les pages 408-409, dans les éditions récentes du livre bleu. Je voudrais m'attarder au numéro 3, enfin je ne m'attarderai pas parce que je n'ai pas le temps, mais je voudrais que vous vous attardiez des numéros 317 à 322, donc sur votre livre bleu, dans le discernement des esprits. 317, donc le discernement des esprits, c'est tout simplement repérer quand nous vient une inspiration, quand nous vient quelque chose de joyeux ou de triste, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Ou est-ce que ça vient du démon? Voilà les 3 sources possibles d'une inspiration, d'un état nouveau dans notre âme. Et je voudrais juste insister, puisque je n'ai pas de temps, sur la question des désolations. C'est-à-dire cet état de tristesse, je cite Saint-Ignace, j'appelle désolation le contraire de ce qui était dit dans la troisième règle, donc les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. C'est l'opposé de la consolation, où on a vraiment l'impression que tout va bien, qu'on est avec le bon Dieu, qu'on aimerait tranquillement rester comme ça toute notre vie. Alors la désolation, d'où vient-elle? Eh bien elle peut venir, c'est au numéro 322, d'un châtiment. Dieu nous châtie parce qu'on a fait des fautes, et donc il nous met dans une tristesse, de laquelle on va pouvoir sortir par la contrition. Ça peut venir d'une épreuve. Donc Dieu, on n'a pas fait de faute, mais Dieu nous met à l'épreuve pour nous faire monter plus haut. C'est-à-dire pour ne pas que notre vie de chrétien soit simplement tout va bien puisque je suis content d'être chrétien puisque tout va bien. Mais s'il y a des choses qui commencent à se gâter, alors c'est Dieu le coupable et j'abandonne, c'est pas un Dieu que je peux suivre puisque, et que je peux aimer puisqu'il me fait du mal. C'est toujours le bon Dieu qui a tort. Donc l'épreuve, la tristesse qui est une épreuve, sera un moyen que Dieu emploie pour nous purifier de cette recherche presque instinctive que nous avons des consolations. C'est vrai qu'on aime bien quand tout va bien, je le disais tout à l'heure, et c'est normal. Mais si on ne vit en chrétien que lorsque tout va bien et qu'on ne recherche que cet état, alors on va vivre vite dans l'illusion, je le disais. Et la troisième source de désolation, c'est une leçon. Leçon que Dieu donne pour ne pas que nous nous attribuions le bien spirituel que l'on fait. Alors on ne fait pas de faute spéciale, mais brusquement on piétine et on s'attriste, on commence à se fermer à Dieu, sans trop savoir pourquoi, mais si on réfléchit bien, on devrait savoir pourquoi. C'est qu'on a fini par se dire, oh ben moi tout va bien spirituellement, je monte régulièrement dans ma vie spirituelle, je commence à une ascension dans une grande sainteté et j'atteins des sommets rarement égalés. Alors, quand on commence évidemment à avoir ce genre d'attitude, le bon Dieu tout de suite nous rappelle à l'ordre. Et d'une façon ou d'une autre, nous permet soit une petite chute, soit tout simplement cette tristesse qui vient d'on ne sait où et qui va être le rappel à l'ordre que Dieu, sans lui, ben on n'aurait pas cette apparente d'abord montée. Et en plus, c'est lui qui en est à l'origine de cette grâce qui nous fait peut-être réellement monter. Alors en conclusion, ben je dirais qu'il faut vraiment prendre au sérieux, sans paniquer bien sûr, hein, mais prendre au sérieux les dangers du combat, mais en même temps, ne pas minimiser les trésors de grâce et de force dont nous disposons. Nous avons beaucoup de moyens à notre disposition. Ces moyens sont ceux de l'Église, sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne devons pas hésiter à aller en user, j'allais dire en abuser. C'est la parole de notre Seigneur. Lisez-la, écoutez-la. Ce sont ses sacrements, c'est sa présence réelle au tabernacle. Et puis, c'est sa très sainte mère. Notre-Dame, qui est invoquée sous bien des titres, mais sous celui de Notre-Dame du perpétuel secours, eh bien ou bien de Notre-Dame de l'espérance, qui nous donne donc la certitude de reposer sur les secours de Dieu pour atteindre la victoire. Et je parlais tout à l'heure qu'il faut nourrir notre foi, eh bien on ne nourrira pas notre foi sans user de cette parole de Dieu, de ses sacrements, de sa présence sacramentelle à l'autel, au tabernacle, et sans être des enfants dévots, c'est-à-dire soucieux d'honorer leur mère, donc sans être des enfants dévots de Notre-Dame. Alors demandez au cours de cet office de compli, eh bien, qui clôt la journée dans le champ du bréviaire, dans l'office, eh bien d'avoir ce souci de désirer justement cette fin heureuse que symbolise cet office de compli. Et cette fin heureuse, vous l'aurez si vous avez, comme saint Paul, mené le bon combat. N'ayez pas peur du combat, n'ayez pas peur même des petites chutes, craignez les grandes chutes, mais pensez surtout qu'il n'y a aucune chute dont on ne puisse se relever. Parce que sinon, ça voudrait dire que la grâce du salut, la grâce de la rédemption, serait moins puissante que nous et que nos fautes. Donc ce serait évidemment péché par désespoir. Et ça, ce serait la victoire du démon. Alors demandez bien au cours de cette soirée, bon, en préparant votre confession demain, de ne pas oublier la miséricorde et la bonté de ce Dieu qui veut nous donner la victoire parce que lui l'a déjà conquise, cette victoire, c'était sa résurrection.